Ce matin, en me réveillant et en voyant toute cette pluie tomber, plus ce changement d'heure, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit le culte va être annulé. Dès qu'il pleut ici, personne ne vient. Alors quand il pleut beaucoup, encore plus. C'est les vacances, le changement d'heure, il y en a qui ont dû arriver trop tôt, ils sont repartis. Et quelque part, ça m'arrangeait. J'ai même téléphoné à Emmanuel. En tant qu'ancien Emmanuel, le culte est annulé, nous sommes d'accord. Il m'a dit non, d'abord je suis en Lozère, je ne sais pas qu'il pleuvait. Alors, je me suis excusé platement, parce qu'en fait je le remplace aujourd'hui, j'avais oublié. Donc c'est normal qu'il ne soit pas là. Donc toujours est-il que vous êtes très nombreux. C'est donc qu'il fallait qu'on entende la parole de Dieu et que je ne me défile pas devant cette responsabilité. Alors pourquoi j'ai eu ce sentiment bizarre, vraiment, en me disant, entre guillemets, ça serait bien que le culte n'ait pas lieu, parce que sans doute le verset, enfin les versets qui me sont échus ce matin ne sont pas faciles, et que j'ai eu, je l'avoue, un peu peur de devoir m'y confronter face à vous, peur au sens, pas pour moi-même, parce que c'est pas grave, mais de ne pas être à la hauteur de ce qui est raconté dans ce texte, et donc de ne pas pouvoir être le bon messager dont Paul a parlé dans sa prière. Pour ceux qui nous visitent, je rappelle que nous avons commencé depuis 2 semaines l'étude régulière des lettres de Jean, des 3 lettres. Nous avons commencé donc par la première, et Yann est intervenu, puis Emmanuel, et donc je prends la suite. Et donc nous avions... Yann avait fait une introduction générale et Emmanuel avait commencé avec les premiers chapitres, les versets 1 à 4. Et donc moi, je dois continuer sur les versets 5 à 10. Nous allons le lire au fur et à mesure, c'est pas la peine que tu les mettes selon ma méthode habituelle, je suis désolé. Il y a peu de passages dans la Bible, finalement, qui sont aussi clairs, je trouve, qui disent des choses aussi clairement et aussi, donc, dérangeants. D'ailleurs, la première lettre de Jean est, dès son début, d'une simplicité presque effrayante. Contrairement à Paul, et Dieu sait s'il a écrit des lettres magnifiques, qui parle surtout, personnellement, à notre intelligence, à notre raison, qui essaie de nous faire comprendre la vie avec Dieu et le pourquoi de tout ce que nous vivons avec lui, de pourquoi est-ce qu'il est là, etc. Mais par la raison, tout ça est très raisonné, avec une intelligence remarquable, parfois même difficile à suivre, où vraiment tout est argumenté. J'ai l'impression que Jean parle, lui, d'abord à notre cœur, et même essentiellement qu'à notre cœur. Ce qui fait qu'il a écrit beaucoup moins, parce que quand on parle sur l'émotion, eh bien, les choses sont dites assez rapidement et parfois les mots manquent, alors que quand on parle avec la raison, on peut argumenter, et on peut en effet étirer, et à juste titre, les textes. Pour moi, sans que ça vous choque, Paul est l'écrivain des convertis un peu plus solides, des convertis qui ont déjà des bases certaines et qui vont aller plus loin dans leur recherche. Jean serait plutôt celui des jeunes convertis, celui de l'enthousiasme premier, celui du bonheur d'être avec notre Seigneur. Et pourquoi ? Et ça, Emmanuel l'avait très bien dit dans sa première étude, parce que lui, il a vu Jésus. Paul l'a aperçu, vous savez dans quelles conditions, et j'y reviendrai, mais Jean, il a vu Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a été avec lui pendant 3 ans. Forcément, ça change tout. Il a été avec lui, il a entendu dire des paroles du quotidien, vivre les moments du quotidien. Et alors que Paul, une des seules phrases qu'il entend, et surtout la première qu'il entend de Jésus, c'est « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce qui est déjà une phrase de bienvenue qui tout de suite ne fait pas rentrer dans une intimité de sympathie. Ce « pourquoi » qu'a reçu Paul en premier, ça pousse forcément à la réflexion. Quand on vous dit « pourquoi », ben vous dites « parce que ». Parce que, parce que, parce que. Les lettres de Paul, c'est ça. Pourquoi ? En effet, je t'ai persécuté. Il va passer sa vie à dire parce que, là, et parce que tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Pas Jean. D'ailleurs, tout au long de son épître principale, parce que les deux autres sont très courts, il va très souvent dire mes petits-enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants. Bon, c'est un vieil homme, certes, mais il nous parle vraiment comme un grand-père ou une grand-mère parle à ses petits-enfants avec, quand on est grand-parent, on laisse le côté père fouettard aux parents. Et nous, on prend que le bon. Je dis nous parce que je suis grand-père depuis un an et demi, je n'en reviens pas, mais c'est comme ça. Et je me rends compte, j'ai ma fille de 8 ans et ma petite fille de 2 ans, donc c'est quand même très proche, mais je ne suis pas du tout pareil. Quand je suis avec ma fille, je fais attention à des trucs. Et alors, je suis avec mon fils, enfin, c'est un peu bizarre. Je suis désolé, j'ai une vie bizarre. Mais Dieu me pardonne tout ça. Et dès qu'elle est là, je ne fais que jouer. Et c'est jamais moi qui la gronde, c'est mon fils qui la gronde. Alors que je gronde ma fille qui est juste à côté. Et c'est génial. Mes petits-enfants, j'ai que des bonnes choses à vous dire, que des bonnes choses à vous donner. Et parce qu'on est dans l'émotion, l'affection, la simplicité brute du sentiment. Et c'est comme ça qu'il débute son épître. Emmanuel nous l'a très très bien dit. Il dit, j'étais avec Jésus, qui est la vie. J'ai vécu avec la vie, la vraie vie parfaite, pendant 3 ans. Il le dit, j'ai vu la vie, j'ai contemplé la vie, j'ai touché la vie. Il a touché la vie en étant avec Jésus. Donc, il en rend témoignage, et tous ses épîtres, c'est que rendre témoignage de ce qu'il a vécu, de cette présence continuelle avec la vie. Imaginez-vous, 3 ans, même nous, on serait d'accord pour une journée avec Jésus. Notre façon d'être avec lui serait... On serait preneur de tout. Donc il en rend témoignage de ce qu'il a vécu. Il nous presse d'être en communion avec le Père et le Fils, comme lui il est. Et le fruit de cela, et c'est ainsi que se terminait le verset 5 dit par Emmanuel, c'est la joie parfaite. Je suis dans la joie parfaite quand je sais que vous êtes en communion, comme moi je suis en communion avec lui. La communion avec notre Seigneur, c'est la joie parfaite. Et cette joie parfaite dont il est parlé, c'est, il y a quelques moments, pour ceux qui ont cette chance-là, ou cette chance, c'est pas une chance, enfin qui le vivent, donc d'être en famille, il y a quelques moments où on aimerait que le temps s'arrête. On se dit, là je suis heureux. Ou avec ses parents, avec ses enfants, avec ses oncles, enfin notre famille, celle qui nous est proche par le sang, il y a des moments comme ça qui sont bénis. Oh, tout est beau, on est bien. On est heureux, on est dans la joie parfaite. C'est ça que dit le début de cette épître, c'est que on doit, puisque notre Seigneur est avec nous perpétuellement, tout le temps, on doit être dans cette joie parfaite. Et ce n'est pas une joie intellectuelle, comme Paul, à juste titre, va nous dire pourquoi on est dans cette joie, c'est une joie viscérale. C'est notre Père, on est avec lui, on est heureux, on est avec nos frères et sœurs, on est bien. C'est ça que dit Jean. Et dans toute son épître, finalement, il va tourner, broder autour de ce thème-là. Et le passage donc d'aujourd'hui continue dans cette veine. On sait que l'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Donc, annoncer l'évangile, c'est donc annoncer la bonne nouvelle. Alors, quand on en parle aux personnes autour de nous, c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, Jésus sauve, Jésus nous aime, Jésus est ressuscité pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité, on va ressusciter avec lui. Oui, c'est tout ça. Mais Jean, lui, il va encore une fois beaucoup plus simplement à l'essentiel. Et c'est ainsi que, dès le verset 5, il le dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, c'est que Dieu est lumière. » Voilà, la bonne nouvelle, la seule, dit pas une des bonnes nouvelles que je vous annonce, dit la bonne nouvelle que je vous annonce, qui nous met dans la joie parfaite, qui fait qu'on est en communion avec lui, moi qui ai vécu avec lui, c'est qu'il est la lumière. Ce prologue, en fait, ce fait que Dieu est lumière, ça nous renvoie au prologue de l'évangile que Jean a écrit aussi. Et où finalement, il ne dit pas autre chose, comme si pour lui, l'essentiel qu'il doit répéter et qu'il introduit immédiatement dans ses écrits, c'est cette histoire de lumière. Ainsi, dans ce que vous connaissez par cœur, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était tout au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et un peu plus loin, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, donc Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà. Jean ne peut pas s'en empêcher. J'ai vécu 3 ans avec un homme incroyable qui était lumineux, mais d'une lumière qui m'a rendu plein de joie pendant 3 ans. Et que ce soit dans son épître, dans son évangile, il doit commencer par ça. Dieu est lumière. Nous avons la lumière. Nous avons la lumière en nous. C'est ça la bonne nouvelle. Quand on voit quelqu'un et qu'on dit c'est quoi être chrétien, on devrait dire j'ai la lumière de Jésus en moi. Il illumine ma vie. Il met de la lumière. Et la lumière dans notre conscient ou inconscient collectif, ça veut tout dire. Ça veut tout dire par son contraire. Quand on est un enfant, on a peur du noir. Ce qu'ont fait les hommes préhistoriques avec le feu, la première chose avant même de cuire la viande, c'était d'illuminer la grotte, de ne pas avoir peur de la nuit. Quelquefois, quand on a des pannes d'électricité, la première chose qui nous dérange quand c'est la nuit, c'est qu'on ne voit rien. On peut se passer de la télévision, on peut se passer de la radio, on va même se passer du four, mais ne plus voir. La première chose qu'on fait, on va chercher une bougie. On ne va pas chercher des piles pour le poste radio. On va chercher une bougie. Même, il paraît, les gens entendent que quand on meurt, ce qui marque les gens, c'est « Ah, j'ai vu la grande lumière, au fond. » L'idée de la mort, tout de suite, elle va être sauvée. Non, non, on passe parce qu'il y a la lumière qui est au fond. Après, il y a d'autres choses. Vous savez très bien que quand les gens du Nord viennent ici, ils disent « Ah, ce que j'apprécie dans votre pays, c'est la lumière qui s'y dégage. » Contrairement, quand on parle de trou noir dans l'espace, ça fait peur à tout le monde, parce que sans qu'on est absorbé, qu'on est enveloppé, qu'on ne va pas s'en sortir. Enfin, tout ça, vous le connaissez, ce sont des lieux communs, mais qui sont bien ancrés dans nos subconscients. Et ce n'est pas pour rien que Jean, lui, il appuie sur ça. Il dit, Jésus, c'est la lumière de ma vie. Et la lumière, ça veut dire que nous sommes dans une forme de chaleur, dans une forme de paix, tout ça, vous le savez. Et je ne vais pas aller plus loin, parce que je pense que ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est ce qu'il y a juste après. Puisque la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, c'est la première partie de la nouvelle. Et la deuxième partie est qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il ne faut pas oublier la deuxième partie, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Les ténèbres. Et c'est en ça que ce passage est très dérangeant. Et c'est en ça que ce matin, porte fermée, c'est le prochain qui prend ce verset. Le mot est lâché. Les ténèbres, c'est nous. C'est notre quotidien secret, caché. Ce sont nos peurs, ce sont nos hontes, ce sont nos renoncements, ce sont nos faiblesses, ce sont nos capitulations, ce sont nos culpabilités. C'est tout ce que l'on cache, tout ce que l'on sait au fond de nous et dont on au maximum la présence et l'existence, parce que d'une certaine manière ça nous fait peur. Et il ne faut pas avoir peur de ces ténèbres, parce que Dieu en parle, Dieu est au courant, et Jean, qui l'a bien connu, le met directement dans l'annonce de sa bonne nouvelle, ici, donc dans son épître. La bonne nouvelle, Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc il corrobore l'existence des ténèbres, il ne le refute pas. Et quand on revient à son prologue de son évangile, on retrouve exactement la même idée, de 10 à 11, donc la suite. Elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais c'est bien de dire, il y a la lumière de notre Seigneur, et dans cette lumière, il n'y a point de ténèbres. Mais encore faut-il aller plus loin et dire ce que sont ces ténèbres. Sinon, ça reste des paroles assez vaines, finalement. Et comme j'ai dit qu'il s'adressait à des petits-enfants, que nous sommes tous, il faut nous expliquer les choses, comme on explique aux petits-enfants. Eh bien, il explique juste après. Il va nous donner le moteur, l'énergie qui nourrit ces ténèbres. Juste après, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le mensonge, c'est le carburant de nos ténèbres. Si on refait toute notre vie, à chaque fois qu'il y a eu un problème, c'est parce qu'on est rentré dans le mensonge. Et le mensonge, c'est exactement le contraire de ce qu'est Dieu. Dans le prologue de Jean et dans ce qu'on vient de voir, on pourrait dire que dans la parole de vérité était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Inversons cette proposition. Dans la parole de mensonge est la mort, et la mort est les ténèbres des hommes. Il ne faut pas s'en étonner. Le mensonge est vraiment la racine de tous les vices. Si vous réfléchissez bien, tout le mal part toujours d'une forme de mensonge. Et Jésus, d'ailleurs, est très au courant, évidemment, mais il nous le dit. Dans Jean 8, quand il s'adresse aux pharisiens qui remettent en cause son enseignement, il le dit très, très, 8:44, il le dit de façon claire. Depuis le commencement, le diable est un meurtrier, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, c'est-à-dire de sa propre identité, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Il ne dit pas le père du mal, le père du mensonge. Et le mensonge, c'est la racine, donc c'est en bas, à partir de laquelle tout le mal, sous toutes ses formes, va pouvoir croître. Et d'ailleurs, Satan, le diable, on met tous les mots que l'on veut dessus, c'est lui qui a commis le premier mensonge, vous le savez très bien, avec Adam et Ève. Vous ne mourrez point, allez-y. Mensonge. Le premier mensonge, il est là, parce que son identité absolue, c'est d'être un menteur. C'est la fausseté, c'est la non-vérité qui est la base du mal. Et dans nos ténèbres à nous, c'est la non-vérité, c'est le mensonge qui est la base de notre mal, de notre mal-être, du mal qu'on fait autour de nous. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'une fois que le mensonge, amusant, intéressant, est lancé, si je puis dire, par le père du mensonge, alors là, ça y est, il va partir avec une vitesse folle. Dans la Bible même, au sein des gens qui sont en contact avec Dieu, alors j'en donne quelques-uns, c'est Caïn qui ment dans Genèse 4:9. Tu as vu ton frère ? Ah non, non, je n'ai pas vu, moi, je ne sais pas où il est. Tu pars, tu viens de le tuer. C'est donc l'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis le gardien de mon frère. C'est Abraham qui ment au Pharaon au sujet de sa femme Sarah, la faisant passer pour sa sœur, ce qui va d'ailleurs entraîner des catastrophes terribles sur l'Égypte à cause de ce mensonge-là. C'est Jacob qui ment à son père Isaac pour recevoir les bénédictions de son frère Ésaü. Plus loin, c'est Ananias et Saphira qui mentent aux apôtres sur le prix du terrain et qui le payeront très très cher. Dire, une fois que le mensonge est là, même auprès de personnes qui, a priori, devraient en être préservées, la racine est profondément ancrée. Pourtant, le mensonge, il est détesté par notre Créateur. Alors, il y a 70 versets, j'en ai lu beaucoup, je vais vous en lire que quelques-uns, où là, ça rigole pas. Dans Éphésiens 4:25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Colossiens, ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Proverbe. Les proverbes, il y en a beaucoup, hein, j'en ai pris qu'un. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Psaume. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans la présence du Seigneur. Apocalypse, le jugement. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Celui qui dit dans Jean, donc un peu plus loin dans cette épître, je l'ai connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Et dans Jacques, vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Encore deux, dans Psaume, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Alors pourquoi une telle haine du mensonge? Pourquoi ce défaut, enfin plus que ce défaut, ce péché, en exergue dès le début de cette épître? Pour ça, il faut revenir aux 10 commandements. Bon, très rapidement, les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, observe le jour du sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ses biens, etc. De tous ces commandements, le plus facile à enfreindre, c'est le 9e. Parce que si je vous interroge sur tous les autres, imaginons que la vie avec Dieu, c'est une grande pièce. On est dans une grande pièce, il y a Dieu qui est là, c'est merveilleux. Il y a une lumière extraordinaire, pas un poil d'ombre. Et il y a 10 portes autour. Dès qu'on ouvre une des portes, chouf, il y a un noir terrible qui rentre dans la pièce et qui éteint toutes les lumières. À votre avis, quelle est la porte la plus facile à ouvrir? C'est celle du mensonge. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. A priori, une fois qu'on s'est mis d'accord sur son existence, on peut très bien dire, ok, tu ne te feras pas d'idole. Pas aller faire une statue dans mon jardin, je peux y arriver. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour te tromper, une fois, pour tromper les autres. A priori, si on est chrétien, qu'on est dedans, on va faire attention à ça assez facilement. Observer le jour du sabbat, donc certains exégètes disent, ça veut dire repose ton corps à certains moments, respecte les lois au sens qui te permettent d'aller vers tes frères et sœurs. Il n'y a pas de souci, honore ton père et ta mère. A priori, c'est pas au-dessus de nos forces, on peut y arriver. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol. Je suis sûr qu'a priori ici...
Ah, t'es arabe, toi, je ne sais pas, hein, ça... C'est pour ça que tu es sur le côté, d'ailleurs. Hein.
C'est ça, tu as raison, tu t'es senti. Excuse-moi, je l'embrasse. C'est parce qu'il me regardait avec des yeux comme ça. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Sur ces 9 de ces 10, a priori, je pense que si on fait un petit sondage, on est quasiment inattaquable. Mais le 9e, tu ne mentiras pas. Allez-y, levez la main. Celui qui, moi non, ah non, moi l'adultère non, le mensonge non plus, mon œil. C'est le plus facile à enfreindre, donc c'est celui par lequel le mal passe, dans 95% des cas. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les gens qui viennent faire des témoignages. Oui, j'étais un drogué, j'ai violé mon père, mon chien, ma mère, j'ai fait des hold-up. Et Dieu m'a sauvé. Ok, évidemment, bravo. Il n'y en a pas un qui vient, ouais, moi, j'ai vu une vie très normale, mais une fois, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mon collègue, j'ai fait des petits mensonges. Mieux, bah arrête, c'est pas des trucs, ça, c'est pas spectaculaire. Et pourtant, c'est ça la base de nos vies. Et c'est ça la base de la vie de la majorité, de l'immense majorité de tous nos frères et sœurs, du monde, tel qu'il dit. Et pourquoi c'est si dangereux, ce 9e commandement? Parce que si on revient à l'histoire du premier mensonge, c'est pas « vous ne mourrez point », il y en a un juste avant. La première parole que dit Satan, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le mensonge, c'est jamais une porte qu'on enfonce à grand battant. Le mensonge, c'est toujours une porte qu'on entrouvre. C'est juste un petit peu. Par le trou de la serrure. C'est dans ça qu'il est absolument terrible, et c'est pour ça que Jean, d'entrée, il le met en place. Et c'est pour ça que c'est des versets dérangeants, parce que là, il n'y en a pas un qui est fier de soi, parmi nous. Pas un. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que de tous les autres commandements, la société, à la limite, à part pour les trois premiers, peut-être sur Dieu, pour ceux qui n'y croient pas, sont d'accord. L'adultère, le vol, c'est clair, c'est net. A priori, il y a une espèce de consensus général pour dire c'est pas bien. Même si parfois on pardonne, on peut expliquer le vol parce que d'accord, mais quand même. Alors que le neuvième, le mensonge, vous allez dans des bibliothèques, vous allez sur Internet, il y a des pages entières, des livres entiers sur pourquoi ment-on ? Quelles sont les différentes formes de mensonges ? Le mensonge utile, le mensonge inutile, le mensonge qui est quand même la première forme du mal. Le diable est le père du mensonge, c'est pas moi qui l'ai dit. Et quelque chose qui est considéré, et depuis la nuit des temps, comme faisant partie intégrante de notre manière d'agir, de notre psychologie, de notre forme de relation avec les autres. Alors, on a trouvé des mensonges incroyables, le mensonge joyeux, le mensonge officieux, le mensonge pernicieux. J'en ai relevé ça. Alors, par exemple, quand vous allez à l'église catholique, ils vous disent, est-ce que vous avez menti par action, en parole ou par omission ? Déjà, c'est pas pareil. Alors là, j'en ai trouvé 5 ce matin, quand j'ai su que le culte aurait lieu. Il y a le pseudo-mensonge de l'enfant. Je suis un bandit et je t'ai volé, etc. Alors ça, c'est très beau, c'est mignon, il faut le laisser s'exprimer. Il y a le mensonge désir, qui est aussi acceptable. Ça prouve qu'on a envie de sceller, de prendre confiance en soi-même. Par exemple, moi qui suis dans le monde du théâtre, je déteste rencontrer des gens de théâtre parce que les conversations que l'on a n'ont aucun intérêt. C'est « Bonjour, comment est-ce que tu vas ?» Et tout de suite, « Et toi, c'est quoi tes projets ? Tu es sur quoi ?» Alors moi, je dis tout de suite « Et toi ?» Comme ça, je ne m'embête pas. Et alors là, ça y est, c'est parti. Alors moi, j'ai un projet pour monter telle pièce avec un tel. Je suis sur un gros coup avec tel comédien parce que là, ça... j'ai une promesse pour aller dans tel théâtre. C'est la mythomanie absolue. Non pas pour, à la limite, pour se rendre intéressant, c'est même pas ça. C'est simplement pour se rassurer soi-même. On a un projet, on a de la qualité, on a de l'avenir. Mais tout ça, c'est des mensonges. Le gars va dire, non, je fais ça, puis voilà. Mais si tu fais ça, tu n'es plus toi-même, tu perds l'identité qui est celle qu'on est censé avoir de celui qui avance, celui qui est demandé, celui qui crée. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc c'est ce mensonge désir, mais qui psychanalytiquement est considéré comme quelque chose de tout à fait intéressant. Nous avons les mensonges culturels. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a que Yann, mais bon, tant pis, bouge-toi les oreilles. La petite souris, le lièvre de Pâques, le Père Noël. Et oui, mais attendez, moi je suis très embêté avec ma fille. Ça fait 8 ans que je la surine avec le Père Noël. Alors elle y croyait comme elle. Et je lui parle de Jésus. Un jour, alors que le Père Noël, elle n'y est pas, il dit, alors donc tu me racontes des bêtises sur le Père Noël, mais Jésus, alors c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ah oui, mais bon. Alors j'espère qu'elle va comprendre. Mais c'est des mensonges culturels qui paraissent normaux. Alors je ne dis pas que tout le monde les pratique. Je sais que certaines familles chrétiennes sont, dès le début... Je ne sais pas. Je vous livre comment on peut arriver à introduire le mensonge comme étant une base de notre existence. Il y a des mensonges altruistes. Ceux qui sont censés protéger la personne à qui vous mentez. Par exemple... Elle a travaillé comme une folle pour son bac. On lui disait, mais oui, tu vas la voir. Alors que peut-être, on savait très bien qu'elle était très bête, qu'elle n'y arriverait pas, mais on ne voulait pas la décourager. Bon, elle l'a eu, on est content. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est, voilà, des mensonges qui sont là, en fait, pour donner une forme d'amour, de fraternité. Mais est-ce qu'ils aident vraiment la personne ? Je ne sais pas. Il y a des mensonges utilitaires pour acquérir un bien ou un service, préserver l'amour de quelqu'un, éviter une sanction. Hein? Oh, patron, quel homme. Non, mais c'est incroyable. C'est merveilleux que vous soyez à la tête de cette société, parce que sans vous, et la promotion, c'est pour quand? Puis enfin, il y a les mensonges hostiles. Alors ceux-là, c'est ceux qui sont pas très bien acceptés. C'est ceux qui font le mal, qui entraînent la médisance, qui voilà, cela, c'est le mensonge qui va créer vraiment des dégâts auprès de la personne dont on a parlé. Mais, quelle que soit cette forme, à part peut-être la dernière, c'est tous des mensonges acceptés, et même quand on va chez certains psychologues à certains moments de mon exercice, ils vont dire, oui, là, il vaut mieux mentir un peu, ça fera du bien, ça permettra que la chose passe, etc. C'est pas possible. C'est pas possible que, quelle que soit sa forme, le mensonge soit un choix perpétuel de notre existence. Enfin, c'est possible si, mais ce n'est pas possible si on veut être dans la lumière de notre Seigneur, dans cette grande pièce pleine de luminosité où toutes les portes sont fermées. Et si on doit en ouvrir une, ça sera sans doute celle-là. Il ne faut pas qu'on croie que ça sera sans conséquence. Il faut rester dans la lumière de Jésus. Lisons la suite de notre épître, puisque c'est quand même ça que je suis censé étudier. Donc juste après, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est cette lumière qui dénoue les problèmes artificiels que l'on se crée dans le mensonge. Il y a plusieurs fois, j'ai expérimenté cette vérité-là. J'ai un problème, je mens, ça me bouffe, ça crée des soucis. Et à un moment, je dis la vérité. Une fois passé le coude, mais tout s'éclaire. Bah tiens, c'est qu'elle le dit. Enfin, tout se dénoue. La vérité fait beaucoup de bien. Alors, plus on met de temps à la dire, plus évidemment, le raccommodage est difficile. Mais si dès le début, on arrive à se placer dans cette position de dire ce qui est, à ce moment-là, cette lumière qu'on a en nous, qui nous illumine, doit normalement arriver à répandre quelque chose de positif autour de nous et à délier les nœuds que l'on se crée soi-même avec le mensonge. D'ailleurs, durant la vie de Jésus, je parle sous le contrôle de tous les théologiens de cette salle, personne ne lui a menti. La femme adultère, la Samaritaine aux multiples maris, Pilate, Hérode, Judas, le jeune homme riche, les brigands, enfin il y en a eu plein. J'ai l'impression que tous ils se sont présentés dans leur vérité. Regardez, juste prendre le passage justement de la femme adultère. Juste la fin, donc quand il a fait fuir ceux qui voulaient lapider, alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Personne ne t'a-t-il condamné ? Et elle répondit, « Mais j'ai rien fait, c'est pas juste, ils ont menti. » « Non ?» répond non. Sous-entendu, « Bah oui. » Il n'y a personne qui m'accuse, mais ce dont il m'accusait, je l'ai fait. Et vous regardez, à chaque fois que Jésus est confronté à quelqu'un, cette personne dit exactement ce qu'elle est. Comme si la lumière dont il rayonnait, finalement, en effet, puisqu'il n'était que lumière, il dit qu'il n'y a point de ténèbres, ça chassait les ténèbres des personnes qu'il avait en face de lui. Mais attention, ça ne voulait pas dire que les personnes en elles-mêmes devenaient soudain merveilleuses, sans faute, etc. Non, mais elles étaient avec leur identité propre. Elles se présentaient à Jésus comme elles étaient, avec leurs 8 maris, avec leur amant, avec leur argent caché, avec leur vol, leur crime, etc. Et à ce moment-là, puisque ces ténèbres-là sont révélés par la lumière dans laquelle on se noie, en quelque sorte, on s'offre, Jésus nous pardonne. C'est pas les ténèbres, c'est pas pour les ténèbres qu'il nous condamne, c'est pour tout ce que l'on cache de ces ténèbres, par nos mensonges. Et c'est exactement ce que dit la suite donc de notre extrait. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Revenons à l'exemple de la femme adultère. C'est exactement ce qui se passe. Elle vient avec sa grosse faute. Ok ? Il ne la juge pas sur ça. Il lui dit, tu as fait ça, vous avez compris, implicitement, elle répond, oui, je l'ai fait. Et à ce moment-là, il passe à l'étape suivante. Va, je te pardonne, va et ne pêche plus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. N'oubliez pas que le diable, c'est le père du mensonge. Et dites, regardez ce que dit Jean, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Donc nous le mettons à l'égal du diable. On lui dit, tu n'es pas Jésus, tu es le diable, tu n'es pas Dieu, tu es le diable. Et sa parole n'est point en nous, évidemment. Je vous avais dit que c'était dérangeant. Enfin, moi, ça m'a dérangé, parce que ça me met vraiment devant mon impuissance au quotidien de ce mensonge permanent que je pourrais chaque jour essayer relever, malheureusement, sans difficulté. Je crois vraiment qu'il faut prendre conscience de cela. En prendre conscience, ça ne veut pas dire qu'on va tout effacer, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir s'en sortir. Peut-être qu'en effet, dans nos existences, on va continuer à avoir besoin d'un mensonge désir, d'un mensonge altruiste, d'un mensonge utilitaire, je ne sais. Peut-être parce qu'on est dans le monde. Mais déjà, si on en prend conscience au moment où on le fait, que là, on retourne dans nos ténèbres et que dans ces ténèbres, on ne laisse pas la lumière de notre Seigneur venir faire le ménage, alors là, on traite Dieu de menteur et on lui dit qu'il est le diable. Mais si, au moment où on le fait, on se rend compte de ça, ça veut dire qu'on referme la neuvième porte et que peut-être du coup, ben, les ténèbres vont être encore beaucoup moins grands que ce qu'on imaginait. Et peut-être arriver vers une vie, alors ça c'est chacun qui peut voir, où on va se dire, mais finalement ne pas mentir, même sur des choses simples, c'est très facile. C'est très facile parce que je suis dans la lumière de Dieu. Et cette lumière-là, elle va éclairer ma vérité d'une façon tellement belle et vraie que la personne en face va forcément accepter ce que je lui dis. Je voudrais conclure avec trois petites lectures, toutes tirées de Jean, évidemment. Bon, une encore de son évangile, parce que vous avez bien compris que on passe de l'un à l'autre avec facilité. Tout à la fin, quand il, c'est vraiment les derniers mots, c'est ce disciple lui-même qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Lui, à la fin de son évangile, il peut dire, je sais que mon témoignage est vrai. Dans le premier épître de Jean, donc je m'excuse pour celui qui prendra plus tard, mais ça je le lis qu'une fois, au chapitre 4, versets 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, donc les péchés, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Alors, quand on dit plus tôt, on sait qu'il s'agit de mensonges, des faux prophètes, etc. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et enfin, je voulais terminer par la salutation de la troisième épître de Jean, qui est une épître très très courte, où là encore il va parler de... Je vous dis, il parle de choses très très simples. Mais regardez cette épître, et j'aimerais, je vais vous la lire, qu'elle soit pour nous tous. Qu'on puisse dire que Jean, s'il revenait, puisse dire ça de toi, de toi, de toi, de moi. L'ancien, à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Donc à la place de Gaius, mettez votre prénom. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.